Chapitre 20. Le monde des dieux. Ils n'en avaient pas fini avec Jupiter. Loin derrière eux, les deux sondes pénétraient dans l'atmosphère. L'une disparut sans laisser de traces. Elle avait sans doute plongé trop directement et s'était consumée avant de pouvoir transmettre la moindre information. La seconde eut plus de chance. Elle s'insinua dans les couches gazeuses supérieures, puis regagna l'espace. Ainsi qu'il avait été prévu, cela lui fit perdre suffisamment de sa vitesse initiale pour l'amener vers le sol en une longue ellipse. 2 heures plus tard, elle rencontra de nouveau l'atmosphère sur sa face diurne à une vitesse qui n'était plus que de 70 000 miles par seconde. Immédiatement, elle fut enveloppée de gaz incandescent et le contact radio fut interrompu. Pour les deux hommes qui attendaient sur la passerelle de contrôle, de longues minutes s'écoulèrent. Ils ne pouvaient être sûrs que la sonde résisterait, que la céramique du bouclier de protection ne se briserait pas avant la décélération. Si cela était, les instruments qui se trouvaient à bord seraient désintégrés en une fraction de seconde. Mais le bouclier tint assez longtemps pour que la sonde, transformée en un météore incandescent, pût freiner. Les fragments carbonisés furent éjectés, le robot darda ses antennes à l'extérieur et entreprit une exploration électronique de son environnement. À bord du vaisseau, qui se trouvait maintenant à 250 000 de miles, la radio transmit alors pour la première fois des informations sur Jupiter. Les milliers d'impulsions qui arrivaient seconde après seconde représentaient autant de données sur la composition de l'atmosphère, la pression, la température, les champs magnétiques, la radioactivité et des dizaines d'autres facteurs que seuls les experts terrestres sauraient débrouiller. Il y avait pourtant une source d'information immédiatement compréhensible, la TV en couleur qui équipait la sonde. Les premières images arrivèrent au moment où l'engin perçait l'atmosphère après s'être débarrassé de sa cuirasse. Tout ce que l'on pouvait voir était une brume jaune, au sein de laquelle des taches rouges se déplaçaient vers le haut, tandis que la sonde tombait vers le sol à quelques centaines de milles à l'heure. La brume se fit plus dense. Il était impossible de savoir si la caméra opérait à quelques centimètres ou à plusieurs centaines de mètres. L'œil ne pouvait retenir aucun détail. Sur le plan de la transmission, la mission semblait un échec. L'équipement avait fonctionné, mais il n'y avait absolument rien à voir dans cette atmosphère de nuages agités de turbulence. Et puis, soudain, la brume s'effaça. La sonde devait avoir atteint la base d'une nappe et elle pénétrait maintenant dans une zone claire. Peut-être était-ce de l'oxygène pur avec quelques cristaux d'ammoniac. Bien qu'il fût toujours aussi difficile d'apprécier les distances, on pouvait estimer que la caméra opérait à présent sur des milles. La scène était si étrange que, pendant un instant, elle n'eut aucun sens pour les deux hommes accoutumés aux formes et aux couleurs de la Terre. Loin en dessous s'étendait à l'infini une mer d'or en fusion marquée de sillons parallèles, qui auraient pu être les crêtes de vagues gigantesques. Mais on ne décelait pas le moindre mouvement. Le panorama était par trop immense. Ce ne pouvait être un océan d'or. La sonde était encore trop haut dans l'atmosphère. Par contre, il pouvait s'agir d'une nouvelle couche nuageuse. Et soudain, la caméra transmit une image déconcertante, estompée par la distance. À des milles de là, sans doute, le paysage d'or formait un cône curieusement symétrique, pareil à celui d'un volcan. À son sommet, des nuages dessinaient une sorte de halo. Tous étaient de la même dimension et très nettement détachés les uns des autres. Il y avait en eux quelque chose de profondément déroutant, comme s'ils n'étaient pas naturels. Pour autant que ce terme fût applicable à un quelconque élément du panorama. Puis, saisie par quelque turbulence atmosphérique, la sonde s'orienta dans une autre direction. Durant plusieurs secondes, l'écran ne montra plus qu'une brume dorée. Et la vue revint. La mer était plus proche, mais toujours aussi énigmatique. On remarquait cependant des zones noires, de loin en loin, comme si des failles ou des trous s'ouvraient là, vers des zones plus profondes. La sonde ne devait jamais les atteindre. À chaque mille, la pression s'élevait. L'engin était encore très haut dans l'atmosphère quand la TV retransmit un dernier éclair d'avertissement qui précéda la disparition totale de l'image. Le premier appareil terrestre venait de se perdre dans les épaisseurs de l'atmosphère de Jupiter. Sa brève mission avait permis d'entrevoir peut-être le millionième de la planète et la véritable surface était demeurée invisible sous les brumes. Quand l'écran fut redevenu obscur, Poole et Bowman demeurèrent longtemps silencieux, avec les mêmes pensées. Les anciens ne s'y étaient pas trompés en donnant à la planète géante le nom du dieu des dieux. Si la vie existait là, combien de temps faudrait-il pour la déceler? Et ensuite, combien de siècles s'écouleraient avant l'arrivée du premier pionnier? Et quel type d'astronef pouvait aborder Jupiter? Mais cela n'était pas du ressort d'Explorateur 1 et de son équipage. Leur objectif était un monde encore plus étrange, qui se trouvait deux fois plus loin que le Soleil, de l'autre côté d'un gouffre d'1,5 milliard de milles, que seuls hantaient les comètes.